Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI comme chaque jour et pour vous emmener dans notre planète football. Pour commencer, nous évoquerons Marcelo Bielsa, l'entraîneur argentin qui partout sème admiration et savoir tactique, mais qui plaide aussi coupable au pays de la reine Elisabeth. L'homme qui se croyait discret en deuxième division anglaise est en fait un vrai James Bond. Faute avouée, lui sera-t-elle à moitié pardonnée? Il a fait forte impression hier, en tout cas en plaidant coupable, mais aussi en expliquant sa vision du jeu. L'assistance vidéo ou l'arbitrage vidéo, la VAR quoi, est-elle infaillible? L'homme en noir, désormais épaulé par des caméras et des confrères, arbitre-t-il mieux un match de championnat ou a-t-il perdu du pouvoir devant l'image, pourtant pas toujours explicite? Il faudrait peut-être encadrer cette pratique qui avait d'abord enthousiasmé pendant la Coupe du Monde en Russie et bientôt utilisée en Ligue des Champions. Et c'est une question qu'on posera évidemment à Bruno Derrien. Bonjour Bruno.
Bonjour Annie, bonjour à tous, ravi de revenir parmi vous.
Notre invité, toujours bienvenue dans Radio Foot International, ancien arbitre en France et international. Et puis nous évoquerons aussi le Bayern Munich de retour sur le podium en Bundesliga, après avoir redressé les résultats en fin de parcours et juste avant la trêve hivernale. Le club bavarois repart en chasse des jaunes et noirs du Borussia Dortmund, bien accroché à la première place du championnat et surtout décidé à ne plus faire de cadeaux. Une autre équipe va-t-elle d'ailleurs troubler ce duel? La question sera posé à David Lortolari. Bonjour David.
Quelle belle synthèse. Bonjour Annie, bonjour à tous. Meilleurs vœux.
Bonne année à vous et vous êtes donc venu d'RMC Sport en voisin, tout comme Naïm Moniol de pas si loin, Eurosport.
Oui, c'est en face. Bonjour hein Annie, bonjour à tous.
Bon alors c'est Dominique qui doit venir du plus loin du Parisien. Bonjour Dominique.
Bonjour, bonjour. Il a traversé la rue donc c'est ça.
Oui, on est tous maintenant, on est dans un pôle média par ici.
C'est vous
à
qui
Paris.
Êtes loin maintenant. Pas au camp des loges beaucoup Dominique.
Hein, pas si loin quand même.
Je suis partout.
Bon Christophe, il a juste traversé le couloir. Bonjour Christophe Jousset.
Bureau d'en face. Bonjour, bonjour Annie.
Radio Foot, c'est parti.
It's Kamar Roof again. Unbelievable Leeds United. They've done it again, Leeds United. What incredible fortitude. Super game of football.
Digo que observé a todos los rivales que enfrentamos.
J'assume avoir observé tous nos adversaires.
Y en todos los entrenamientos.
Tous les entraînements de nos adversaires avant de les affronter.
A que los enfrentaron.
Marcelo Bielsa transformé en James Bond. Alors a-t-il changé l'entraîneur argentin qui serait passé avec glacière et ballon au service de sa majesté El Loco, un nouveau 007 en tout cas. Ce matin il fait la une des pages sport des journaux du Royaume Britannique en costume et nœud papillon. Il s'agit bientôt de photomontage car il n'a guère abandonné ses survêtements. Marcelo Bielsa, il est à la une pour avoir assumé avec ou sans élégance, mais en tout cas pour avoir assumé son travail d'espion, d'espionnage, espion au service de Leeds United, son club, pour remplir sa mission très spéciale, celle de gagner.
J'assume
l'entière responsabilité de cette situation. La personne qui a espionné a agi sur mes ordres. Mon attitude a été jugée par de nombreuses personnes. La plupart désapprouvent ce que j'ai fait. Ils prétendent que ce n'était pas éthique, que c'était immoral, que cela affecte ou transgresse le fair play, que c'est de la triche. Le club qui m'emploie s'est excusé auprès de Derby County en déclarant que mon attitude ne respecte pas les principes d'honnêteté et d'intégrité du club.
Bon alors il n'a pas tout à fait changé, il continue à parler espagnol, même en territoire anglais. Si vous le regardez sur internet, vous verrez qu'il regarde ses feuilles, il louche sur ses feuilles plutôt de regarder les confrères les yeux dans les yeux, ça n'a pas changé non plus, mais il a plaidé coupable en faisant donc profil très bas. Il a d'ailleurs eu cette phrase aussi durant cette conférence qui a duré 70 minutes. Je ne parle pas espagnol, mais je peux vous parler des 24 équipes de Championship. Et alors durant sa conférence, hein, on l'a reconnu, des leçons tactiques, graphiques, des schémas, des vidéos, des statistiques, pour donc avouer qu'ils avaient espionné le club entraîné actuellement par Frank Lampard.
Derby County, ouais.
Derby County, parce qu'ils ont perdu 2-0 Derby County face à Leeds United, et finalement ça leur a pas beaucoup plu d'avoir découvert que il y avait un espion pendant leur entraînement, c'est ça, hein, Naïm?
Ouais, voilà, c'est exactement ça. Ça avait une question, si Derby avait gagné ou fait match nul, est-ce que ça les aurait dérangés? Voilà, moi je sais pas. Je trouve que c'est une pratique qui se fait partout. C'est absolument courant, professionnel, amateur, chez les hommes, chez les femmes. On va espionner l'adversaire. Alors c'est peut-être pas Marcelo Bielsa qui a été lui-même, mais tout le monde envoie son scout, envoie des gamins passer devant le grillage, voir un peu qui joue, dans quel système, est-ce qu'il y a un joueur qui est utilisé à un poste différent. Tout le monde fait ça. Moi je l'ai trouvé de bonne foi, Marcelo Bielsa, sur sa conférence de presse.
Alors il s'est expliqué, hein, précisons-le, c'est parce que il y a une enquête qui a été ouverte,
oui,
alors sur plainte justement par la Fédé,
voilà,
et la Ligue.
Parce que les statuts, les règlements interdisent ce genre de pratique. C'est la différence entre le règlement et l'interprétation du règlement. C'est vrai que c'est interdit, mais tout le monde le sait, tout le monde le fait, de manière plus ou moins assumée, de manière plus ou moins ouverte. Donc voilà, est-ce qu'il va être condamné? Je crois pas, très sincèrement. Voilà, peut-être un rappel à l'ordre, mais enfin, c'est plutôt drôle qu'autre chose, en fait.
Bah oui, c'est ce qu'on avait envie de ressentir, mais il y a aussi une vraie histoire derrière. Bruno, ouais, derrière.
Mais je crois que des pratiques, alors je parle sous le contrôle de Dominique, je crois savoir qu'il y a des journalistes du Parisien ou même de l'équipe, son confrère, qui montaient dans les arbres à Clairefontaine, il fut un temps, pour surveiller les entraînements de l'équipe de France. Certains ont même été pris, je crois, par les agents de sécurité.
Je me souviens plus.
Est-ce que vous êtes monté dans les arbres?
Je me souviens,
Dominique.
Il y a prescription, Dominique. Pourquoi vous parlez?
Ah bon?
Oui, je l'ai raconté.
Il y a des exemples célèbres.
Je l'ai raconté, dans un livre. Les journalistes font tous les huis clos. Parce que la composition d'équipe est une information à donner au lecteur. Donc les journalistes
Mais vous le donnez à l'adversaire.
Alors, c'est pour ça que je rejoins en partie ce que dit Naïm. C'est-à-dire que, en sélection, ça se fait beaucoup, par exemple. Pour les matchs de sélection, ça se fait énormément parce que souvent ils s'entraînent sur juste les équipes les unes juste après les autres. Donc en général, la première équipe laisse un espion dans le stade dissimulé qui regarde un petit peu la mise en place tactique du suivant, et celui qui arrive après, lui, il fait venir en amont quelqu'un du staff pour regarder un petit peu ce qui se passe avec son adversaire du lendemain. Voilà, et quand ça ne marche pas, il demande aux journalistes étrangers, par exemple s'il y a un France-Italie, il va demander aux journalistes italiens qui a suivi l'entraînement caché de l'équipe de France, alors il va mettre quoi, Didier Deschamps, et comme ça il fait le relais. Donc en fait le journaliste devient un espion. C'est vrai que c'est une pratique extrêmement courante. Après, c'est pas très fair-play. Nous, c'est une information qu'on doit au lecteur, donc on le fait. Quand c'est d'équipe à équipe, de staff à staff, c'est pas hyper fair-play, ça agace énormément les entraîneurs qui sont concernés. Quand Deschamps apprend que un Danois, un Norvégien, un Allemand a espionné son entraînement, il pique une petite colère quand même. Voilà, ça en reste là parce qu'il n'y a pas de...
On se souvient, pendant la Coupe du Monde en Russie, ils étaient derrière des hautes palissades, les entraînements,
oui,
de l'équipe de France.
Il y avait, c'était une armée de flics.
Il y avait des vigiles, oui.
Partout, c'était renforcé. Il y a une paranoïa totale à part de ça, parce que c'est des secrets industriels qui durent 20 secondes aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Ils ont tous des agents, les joueurs, ils téléphonent à leur agent. Alors, un jour, on leur demande, alors tu joues demain? Bah non, vu la mise en place, là, j'avais la chasuble des remplaçants. Ah bon, après, les journalistes appellent l'agent, et puis une heure après, tout le monde le sait. Hein. C'est même plus la peine de les faire, les huis clos. C'est l'information la moins bien gardée au monde. Donc les entraîneurs qui sont complètement paranoïaques pensent qu'il faut tout, qu'il faut protéger, mettre des barricades, mettre des vigiles, mais ça ne sert à rien, puisque je vous dis, une demi-heure après, tout est, on craque les huis clos. Après, voilà, c'est pas bien grave, c'est pas très fair-play, mais c'est pas bien grave, et puis ça correspond à la légende de El Loco, quoi. On peut déjà faire un livre sur Marcelo Bielsa, il y a 500 anecdotes, c'est un des entraîneurs les plus fous de l'histoire.
Ah voilà,
c'est génial.
Mais
bien sûr, il alimente sa propre légende, quoi. Ça arrive pas à, je sais pas moi, à Mauricio Pochettino, cette histoire, ça arrive à Marcelo Bielsa.
Mmh, ouais, et d'autant plus que Marcelo Bielsa hier avait convoqué une conférence de presse, il y a eu tout d'un coup sur les réseaux sociaux, tout le monde se demandait s'il allait démissionner.
Bah
donc
oui.
C'est déjà arrivé, ce genre d'épisode. C'est quand même un paradoxe dans la riche philosophie, Annie, de Marcelo Bielsa, parce qu'il me semble qu'il avait lui-même formalisé l'idée que il souhaitait toujours arriver au succès par des moyens dignes. c'est lui qui l'a écrit, il a toujours formulé cette idée-là, donc là c'est un peu...
Alors c'est... Il a l'air de dire qu'en Angleterre, les pratiques sont pas les mêmes qu'ailleurs.
En fait, oui,
oui,
voilà,
ça peut justifier peut-être un peu cette
pratique-là. Enfin, dans les règles.
Le problème de Bielsa, c'est qu'il arrive avec des méthodes, une culture footballistique sud-américaine, où tout le monde espionne tout le monde, où ça se fait à peu près partout, je vous le dis, ça se fait partout. Il exporte ça en Europe, alors nous, avec notre regard comme ça, on fait, oh là là, ça vient de lui, c'est pas bien, c'est ceci, c'est cela, c'est bizarre, c'est illégal, c'est pas fair play, mais tout le monde le fait.
Ça rappelle
absolument
cette histoire,
tout le monde.
Ça rappelle cette histoire la veille de la demi-finale de Coupe du Monde France-Brésil dans les années 80, il y a une trentaine d'années, où le staff de l'équipe de France s'aperçoit qu'il y a un Brésilien qui observe la séance d'entraînement de tir au but de l'équipe de France. Et ça doit être le sélectionneur français de l'époque qui dit à Luis Fernandez, bah tiens, tu vas tirer de l'autre côté pour tromper les Brésiliens. Et le lendemain, il a tiré du bon côté, enfin pour tromper le gardien brésilien. Donc c'est quelque chose qui est quand même... dans le sport aussi, et au-delà, tout à fait traditionnel.
Ça, c'est un détail hyper intéressant. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on peut voir vraiment? C'est-à-dire, il va y avoir des confrontations de Ligue des Champions entre Barcelone et Lyon, par exemple. Qu'est-ce que Lyon a à deviner de Barcelone? S'ils savent pas comment joue Messi,
on n'est pas sur le même degré de médiatisation aussi.
Non, mais Dominique. qu'est-ce que Marcelo Bielsa croit qu'il va observer en allant à un entraînement de Derby County? Qu'est-ce qu'il croit qu'il va découvrir qu'il ne sait pas déjà?
Parce qu'il dit qu'il a quand même visionné 51 matchs pour pouvoir bien faire gagner son équipe dans cette confrontation, quoi. Il a l'air de persister et de signer dans ce style de méthode. Mais est-ce qu'on peut lui reprocher finalement?
Qu'est-ce qu'on a à voir, Annie? Qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse voir qu'un technicien, parce qu'on peut quand même pas lui faire l'insulte qu'il n'est pas un bon technicien ou un bon tacticien. Après, il a des limites, comme tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il peut ne pas savoir?
Mais Dominique, si on donne à un entraîneur le choix entre savoir connaître le 11 de départ d'en face et ne pas le connaître, il choisira toujours de savoir, non?
Mais oui, mais c'est pas parce qu'il saura quels sont les 11 qu'il y a un des 11 joueurs qu'il n'attendait pas, qui va prendre Dominique. Un rouge au bout de 5 minutes. Le foot, c'est imprévisible. Vous pouvez savoir quelle équipe qui va jouer le lendemain. Vous savez pas qu'au bout de 5 minutes, il va faire mal dans la surface, penalty. Vous avez tous vos plans de la semaine sont réduits à néant.
Il se dit des choses aux séances d'entraînement et au centre d'entraînement qui ne se disent pas ou alors qui ne s'entendent pas quand vous êtes sur un terrain en plein match avec les supporters autour qui font du bruit. L'idée, c'est peut-être pas de regarder la mise en place tactique en elle-même ou qui joue, parce que ça, sur les matchs, ils font de la vidéo, ils voient les matchs, comment les mecs jouent, mais peut-être plus essayer d'écouter ce qui se dit entre Lampard, ses adjoints, entre Lampard et les joueurs, les conseils qu'on peut donner.
On joue pas comme on s'entraîne. Il a parlé de l'exemple de la séance de tir au but, s'entraîner la veille à huis clos, quand devant personne, et jouer une demi-finale de Coupe du Monde, et faire une séance de tir au but devant 80 000 personnes après 2 heures dans les pattes.
Entre jouer une demi-finale de Coupe du Monde et un match de Championship contre Derby County, c'est pas pareil.
Vous pouvez les jouer depuis 20 ans, les pénalties, les tirer à droite. Quand il y a 80 000 personnes, qu'il y a une place en finale, vous avez peut-être un petit peu les chocottes, comme on dit, et vous tremblez un petit peu.
En demi-finale de Coupe du Monde, pas en championnat.
Platini, ils ont raté des tirs au but.
Vous pensez qu'il sera puni?
Il n'y a rien à observer. En fait.
S'il est puni, alors je veux dire, sincèrement, s'il est puni, c'est dans le règlement, mais ça serait injuste, parce qu'on va revenir là-dessus, tout le monde le fait.
Mais c'est pas une raison, ça.
C'est pas une raison à ce moment-là. Non, mais à ce moment-là, il faut sanctionner tout le monde.
Mais tout le monde le fait, mais le but, c'est de pas être pris, quoi. Parce que.
Oui, voilà, le but, c'est de pas être pris, mais à la rigueur,
tout le monde brûle des feux rouges. Mais moi, quand je brûle un feu rouge et qu'on le voit, je suis arrêté.
Oui, c'est sûr.
Donc, il faut pas le faire.
Enfin, d'un autre côté, entre observer l'adversaire, ce qui est une. La frontière entre la légalité et l'illégalité est quand même très floue. Parce que vous pouvez, moi, demain, je suis entraîneur de foot. Je dis à un gamin dans la rue, je donne du rouge, je dis, tiens, va regarder devant le grillage ce qui se passe là-bas. Le gamin a tout à fait le droit d'aller voir. Voilà, c'est pas pour autant que c'est illégal.
C'est sûr.
Donc la frontière est tellement floue que condamner quelqu'un,
la faute là-dessus. Débile, hein.
Oui,
en
voilà.
Il a séduit certains de nos confrères qui étaient à la conférence hier, conférence de presse, parce qu'il y a le correspondant de la BBC à Leeds qui a tweeté, il faut absolument, évidemment, que le foot anglais, et non pas seulement Leeds, se réjouisse d'avoir dans ses rangs un tel génie.
Marcelo Bielsa,
c'est pas un pays très puritain qui va. Le football est sacralisé, mais j'imagine pas qu'ils vont en faire une affaire d'État quand même.
Marcelo Bielsa.
En plus, ils ont d'autres problèmes politiques, peut-être.
Ce mec suscite une fascination un peu de gangster. C'est-à-dire que les types qui font un peu peur, comme ça, avec des trains de vie et des un peu dissolus, un peu machin, fascinent toujours les foules.
Ça peut être une fascination pour un super entraîneur.
Oui, sans comparaison, évidemment, mais je pense qu'on est plus fasciné par sa personnalité que par ses résultats, moi. Parce qu'il a de bons résultats.
Il est premier de championship. Il va passer en première ligue l'année prochaine.
Il a de bons résultats, mais je pense qu'il pourrait avoir les mêmes résultats avec une personnalité plus commune, on n'en parlerait pas. Je pense que sa personnalité fascine plus que ses résultats.
Est-ce qu'il a trouvé enfin un club où développer ses méthodes? Parce qu'il est à Leeds United, qui depuis longtemps ne joue pas en première division. Il est dans le nord de l'Angleterre. Il a essayé un peu de se faire oublier. Et c'est toujours Marcelo Bielsa.
Oui, et puis alors il y a sa légende à lui. Et puis il y a aussi cette légende du club. Alors ça correspond peut-être à, un peu à moi, à ma génération. Mais le Leeds qui avait été champion d'Angleterre a peut-être très soif aussi de retrouver un peu ce genre de d'épopée.
On croyait que Lille aussi à l'époque, mais
ça, oui, après il est parti plus tôt que prévu, mais ça va arriver là aussi, il n'y a pas de raison.
Non, mais il n'est pas fait pour des, il n'est pas fait pour entraîner Real Madrid. Il est fait pour voilà des clubs comme ça, comme Leeds,
qui croit en lui,
Marseille qui n'est pas un grand d'Europe, mais qui est un club phare du championnat de France. Voilà, il peut trouver une alchimie comme ça. Mais je pense que vous le mettez à Manchester City, ça vole en éclats. Il a des limites. Il y a des entraîneurs qui sont pas faits pour les grands clubs. Il y a des et lui, il est fait pour pour relancer des clubs comme ça qui sont improbables. Marcelo Bielsa à Leeds, ça paraît comme sur le papier un peu fou. Et ben ça va marcher, ça marche.
C'est 16 victoires en 27 matchs, hein, donc c'est quand même assez impressionnant. En tout cas,
il va peut-être monter et partir, hein, parce qu'il est comme ça. Hein.
Oui, oui, on sait. J'ai donc retenu que Marseille n'était pas un grand club. En tout cas, c'est là où il y a...
Français, pas européen. Bon, ils ont une Ligue des Champions, mais bon, c'est tout. Quoi.
Ils en ont une quand même.
Oui, c'est bien. C'est la seule du football français, donc on les félicite, mais c'est pas un grand d'Europe.
Bon, en tout cas, Marcelo Bielsa, c'est sûrement un des entraîneurs qui a laissé le meilleur souvenir à Marseille ces derniers temps.
Hein, peut-être même un des pires aussi, quand même. Parce que le départ, quand
son
même.
Son départ, oui, effectivement, ouais.
Affaire de passion, finalement.
Voilà. Et je pense qu'il avait réussi à déclencher les passions, et en tout cas, ce par qu'on le peut jeu, dire
parce
actuellement.
Il était quand même un peu en tête à la trêve, et il a fini quatrième, quand même. C'est pour moi un échec sportif. Il a très très mal fait. Il a tiré beaucoup du même 11 qui arrivait en mars au printemps, qui était complètement cuit, qui n'a pas réussi sans Coupe d'Europe à, je dis pas au moins lutter avec le PSG, mais au moins finir deuxième. Et il a quand même fini à la place de la Ligue Europa. Quand même. Moi, je trouve que c'est voilà, je suis pas fasciné par Marcelo Bielsa. C'est un théoricien du foot. Je pense qu'il a beaucoup de lacunes en tant que technicien du quotidien.
En tout cas, il avait quand même réussi à déclencher quelque chose du côté de Marseille. Alors justement, Marseille, on va s'y arrêter quelques secondes, mais cette nouvelle défaite hier soir, ça fait 9 matchs maintenant que l'OM ne gagne pas. Demain, on parlera de Saint-Etienne et de Lyon parce qu'ils vont jouer un grand derby au cours du week-end. Mais cette défaite d'hier éloigne évidemment encore un peu plus l'OM du podium, même s'ils ont encore un match de retard. Et surtout, écoutons Florian Thauvin, l'un des meilleurs hier sur le terrain, mais qui quand même veut voir du positif dans cette défaite.
On était tous abattus, déçus. J'avoue que c'était silencieux à la fin du match dans le vestiaire. On s'est tous regardés, on était déçus parce que c'était beaucoup mieux ce soir. Et je pense qu'on n'a pas été récompensé. C'est triste ce soir parce que ce résultat nous enfonce encore un peu plus. Mais je pense que ce soir, il y a beaucoup de choses positives à garder.
Est-ce que vous avez trouvé dans le jeu de Marseille hier face à Saint-Etienne, David Lortolari, des raisons d'espérer?
Sans doute, parce que cette courte victoire de Saint-Etienne, elle est due aussi, parmi les aspects du match, à une belle prestation du gardien des Verts. Alors vous évoquerez Saint-Etienne plus en profondeur demain, certes, mais voilà, c'est aussi, on pourrait dire, faire match nul à Saint-Etienne, ça aurait été un résultat correct.
Bien surtout.
Ça, c'est, on n'en est pas loin finalement avec la prestation
de Ruffier.
Il y a eu aussi
un super caserie quand même, qui a tout troublé.
Mais côté Marseille, moi je veux bien que ce soit encourageant, mais quel est, enfin, on parle d'Europe, on parle d'être dans les 5 premiers. Quel est le joueur sur les 11 d'hier? Il y a Florian Thauvin qui est au niveau européen et les autres, ils sont où?
Mais moi je suis entièrement d'accord en fait.
C'est particulièrement en défense, en fait c'est tout l'effectif.
À un moment donné, il faut arrêter de penser que c'est encourageant de voir Marseille faire la prestation d'hier parce qu'ils ont possédé le ballon et qu'ils ont eu des situations de but. Qu'est-ce qu'il y a d'encourageant de voir une équipe gâcher 6-8 situations de but par match et encaisser 2 buts en étant pressé 4 minutes, 5 minutes par une équipe qui n'a pas montré grand-chose? Parce que un des événements du match d'hier, c'est que Saint-Etienne n'a pas été bon en fait. Obi Kadri marque un doublé et c'est les deux seules frappes qui cadrent. Il a raté énormément de choses. L'équipe est pas terrible.
Une troisième que demande à la sort.
Oui, une troisième que Mandanda sort. On voit énormément de choses très pauvre du côté de Marseille, même s'ils ont de l'état d'esprit, qu'ils ont couru, qu'ils ont la possession du ballon, il y a des situations de but avec des joueurs de ce niveau. Je rappelle qu'il y a 3 champions du monde dans l'équipe. Alors Payet hier n'était pas titulaire, mais au quotidien c'est quand même un joueur qui joue dans l'équipe, qui pèse un petit peu.
Enfin, 3 joueurs qui n'ont pas été titulaires et, ouais, non, mais et dont 2 n'ont pas joué.
Je suis bien d'accord. Donc à un moment donné, cette histoire de, il y a un déficit de confiance, Marseille ça va pas, les résultats. Faut quand même à un moment donné aussi parler du déficit de talent qu'a cette équipe. C'est pas parce qu'il y a des noms d'empilés que l'équipe est bonne. Je pense que l'équipe n'est pas bonne, qu'il y a 1-2 joueurs peut-être qui mériteraient d'aller au-dessus, dont Florian Thauvin, le disait David, c'est vrai, mais pour le reste ouais,
C'est au moins 3e effectif de France, Onaïm, quand même.
Sur du jeu.
Ah ben non, mais ça serait, c'est un problème d'entraîneur, ça. Mais si vous prenez les effectifs, on peut dire que le Paris Saint-Germain, le premier effectif de France, ça, si quelqu'un me conteste, que Monaco a le 3e, 4e, et on peut dire que Lyon a le 2e, et Marseille a le 3e ou le 4e avec Monaco, ça dépend où on se situe. Moi, je crois que Monaco...
Alors, sur les noms, il y a plus de joueurs. Sur les noms, aujourd'hui, sur la valeur marchande, je peux l'entendre. Sur le jeu proposé.
Ah, mais après, c'est l'autre débat, d'accord. C'est le débat Rudy Garcia. Je sais pas si Yannick veut l'ouvrir, mais il est à 14 défaites
c'était
en 27 matchs.
C'était la question. Est-ce qu'il va tenir encore?
Il est à 14 défaites en 27 matchs. Donc, c'est-à-dire que plus d'un match sur deux que joue l'OM, le perd avec Rudy Garcia cette saison.
Donc, on peut convenir tous les deux que, ce que montre l'Olympique de Marseille, même avec des joueurs phares qui coûtent cher, qui viennent de grands clubs ou qui ont un palmarès, n'est pas suffisant.
Donc, pour moi, il y a un problème d'entraîneur.
Il y a peut-être aussi un problème de talent.
Non. Ah bon, non, parce que d'accord. Le talent, il est là, l'année dernière.
Donc, Strootman avec un autre entraîneur, il est bon. Germain et Mitroglou avec un autre entraîneur, il sera 15 millions.
En faisant jouer Germain à sa place et en prenant pas Mitroglou, par exemple, on ne le recruterait pas pour 15 millions d'euros, Radonjić pour 12 millions d'euros. Mm-hmm. Hier, on a parlé de Wahbi Khazri, là. Si Wahbi Khazri, il peut pas être à Malouem. Ça, l'OM a pas les moyens et l'idée. L'idée, elle coûte zéro.
Ça, c'est un autre débat.
Elle coûte
zéro. D'accord là-dessus.
Bah, non, mais plutôt que de prendre Radonjić, 12 millions. Ils peuvent pas mettre 12 millions sur Khazri qui vient de Rennes.
D'accord. Je suis bien d'accord avec vous.
Les idées pas chères, il y en a plein.
Mais à un moment donné,
sauf que Lyon, Marseille, avec Garcia, ils veulent Strootman à 28 millions d'euros. Ils ont dépensé 50 millions d'euros.
Donc, le niveau redevenu quand même très faible de Mandanda, c'est à cause de Garcia. Rami, qui est toujours pas revenu de la Coupe du Monde, c'est Garcia. Gustavo, qui est quand même la moitié du joueur de l'année dernière, c'est Garcia.
Qui ne joue pas à sa place en plus.
Je parle de Rami.
Mais dis Payet.
Ah non, c'est Rami, je veux dire. Oui. Bon, on peut aussi parler de Payet qui fait encore une saison en demi-teinte et qui est très loin des deux derniers mois de la saison dernière. Tout ça, c'est Garcia.
La question, c'est est-ce que Marseille a touché le fond ou pas encore, selon vous?
Oh non, ils vont à Caen ce week-end. Ils peuvent encore perdre.
Le problème de Marseille, c'est
qu'ils vont. C'est Lille.
Ils reçoivent Lille,
après,
oui,
c'est Lille
bien.
Dans un vélodrome qui sera frondeur, même s'ils gagnent à Caen. Le vélodrome va pas se calmer comme ça en une semaine et donc ça va être détestable. Délétère.
Le problème aussi de Marseille, c'est que la saison est finie, puisque les deux coupes nationales ils sont éliminées, la Coupe d'Europe ils sont éliminés, ils sont quand même très loin de la Ligue, du niveau Ligue des Champions en tout cas, et des places européennes, en tout cas de la Ligue des Champions. Donc on fait quoi jusqu'au mois de mai?
Ils ont une toute petite chance de redresser la barre.
Peuvent, voilà, exactement.
En faisant un super mercato.
Voilà. Ce qui pour l'instant n'est pas le cas.
Ça, c'est Monsieur McCourt. En virant l'entraîneur, ça c'est mon avis.
Ce qui pour l'instant n'est pas passé.
Et en trouvant le bon, parce que une fois qu'on a viré Garcia, on n'a qu'une solution, on n'a qu'une partie de la solution, parce qu'il faut trouver quand même quelqu'un de bon, et il n'y en a pas forcément 50, donc c'est pas facile, mais il y a une toute petite chance d'accrocher encore le podium avec ce match en retard.
Et peut-être recruter, qui sait, enfin Super Mario. Hein,
c'est Marseille-Bordeaux le match en retard.
En plus.
Si l'avenir de l'OM passe par le recrutement de Balotelli, c'est que quand même c'est
ça
grave.
Qui est fou.
C'est très très grave.
Mais on continue à en parler. Il commence à y avoir des précisions, mais c'est toujours pas fait. Pour terminer cette page de match directement, on va dire, à noter, la Juventus de Turin hier a remporté son premier titre de la saison, son premier trophée, et c'était la Supercoupe d'Italie. Ronaldo qui a inscrit le seul but de la victoire des Bianconeri hier à Jeddah face au Milan AC. Ça devait être le premier gratier de la saison des supporters Bianconeri pour Cristiano Ronaldo.
Quoi ? Mais qu'est-ce qu'elle a à l'image ?
Il y a une aide, mais l'arbitre sera toujours au début de l'histoire et à la fin de l'histoire. On est bien dans de l'assistance vidéo et certainement pas dans de l'arbitrage vidéo.
Strootman pour Ocampos qui se retourne et le deuxième but de Marseille. Le voilà, Florian Thauvin.
Aucun fouillage.
Ah, monsieur le sage, qu'est-ce qu'il va décider?
Non,
il n'y a pas but. Le but n'est pas validé.
Et voilà, il faut pas s'emporter hein, quand il y a un but qui est marqué, parce que quelques instants après, il peut être démarqué, on va dire, ce but. Mi-temps des championnats européens, puisqu'on en est à peu près partout aux 20e journée, et mi-temps eh bien, de l'utilisation de la vidéo auprès des arbitres, de l'assistance vidéo, de l'arbitrage vidéo. Qu'est-ce que vous préférez comme terme?
Moi, je dis le VAR. Certains disent la VAR.
Ouais. Il paraît que le VAR, c'est le département, et que la VAR, ça serait l'assistance vidéo. Mais bon,
on va dire la VAR.
Personne n'arrive
à le VAR, c'est l'homme qui utilise la vidéo, et la VAR, c'est le système.
Voilà.
Enfin, pour s'en sortir.
Ah.
L'homme qui est derrière la machine, c'est quelqu'un qui...
Ah, ils sont deux, en l'occurrence.
Le VAR. Ouais. Et le système qui permet de contrôler les images s'appelle la VAR. Voilà.
D'accord.
Comme ça, tout le monde est content. Tout le monde peut dire le et là.
Oui, c'est bien compliqué. En tout cas, on voulait faire le point. Et d'abord, je voulais vous demander votre premier ressenti à vous, Bruno Derrien, qui évidemment regardait les matchs, à qui on demande très souvent son avis, je vois bien, notamment à travers Twitter. Qu'est-ce que vous pensez actuellement? Ça fait 6 mois à peu près, alors on l'a vu à la Coupe du Monde. Et d'abord peut-être, avant de vous demander, Christophe Jousset, rappelons dans le cadre de l'avare du système, quand est-ce qu'on peut faire référence au système? Parce qu'on voit souvent les joueurs hein, faire le dessin avec leurs mains, mais théoriquement c'est pas eux qui on appelle au système.
Alors il y a 4 situations qui sont prévues. D'abord faut dire que l'initiative, je regarde Bruno Derrien parce que
et vous bêtise, je vous contrôle de près.
je suis contrôlé par la vidéo directe. Alors l'arbitre peut prendre l'initiative, celui qui est sur le terrain, c'est lui qui peut interpeller les arbitres assistant vidéo, ou ça peut être l'inverse aussi.
Dans le cas où l'arbitre central ferait une erreur manifeste.
Voilà.
Donc, ce qui est dit dans le protocole, l'erreur manifeste.
Voilà. L'initiative...
Il peut les ignorer alors?
Non, si l'arbitre commet une erreur manifeste et qu'il ne se rend pas compte, l'arbitre vidéo a le devoir d'alerter son collègue.
Et ensuite, il y a 4 situations qui sont identifiées, situations de jeu qui sont identifiées pour avoir recours à l'assistance vidéo. D'abord, un but vient d'être marqué et on a un doute sur la validité pour une raison ou pour une autre, soit parce qu'il y a une suspicion de hors-jeu ou alors le ballon qui est sorti juste avant d'être centré, enfin ce genre de situation. Le deuxième cas, c'est un pénalty qui vient d'être accordé ou refusé et on se demande si c'est juste ou pas d'avoir refusé ou d'avoir accordé le pénalty. Ensuite, un carton rouge direct vient d'être sorti et il faut vérifier si c'est mérité ou pas. Et la dernière situation, c'est, vous savez, l'erreur sur l'identité de pour éviter une erreur sur la personne, pour éviter de qu'un joueur soit sanctionné alors qu'il s'agissait d'un autre joueur dans une mêlée, une bagarre, etc. Là, on a recours encore une fois aux images.
Donc, Bruno,
sachant qu'il y a un cinquième cas qui n'est pas traité par la VAR, qui est la goal line technology. Est-ce qu'il y a but ou pas but? Est-ce qu'au moins le ballon a franchi la ligne? Ça, c'est indépendant du traitement de la VAR.
C'est l'autre, effectivement,
c'est l'autre chose. Pas, tous les pays n'ont pas
l'autre.
Ce qui a permis d'ailleurs.
Cette technologie sur la ligne de but, la France là.
Ce qui a permis hier soir d'ailleurs à Monaco d'égaliser, parce que c'est la goal line technology qui a validé le fait que le ballon avait franchi entièrement la ligne, parce que les arbitres ne l'avaient pas vu.
Malgré un super arrêt de Benitez.
Tout à fait.
Que diriez-vous alors de ces quelques mois en France, de ce demi-championnat avec la vidéo?
Il faut dire
avec la
qu'il
vidéo.
Était pour l'utilisation de la vidéo.
Oui, oui. J'avais d'ailleurs écrit un bouquin en 2010 là-dessus. Depuis, mon sentiment a un peu évolué, pour tout vous dire. Je suis assez partagé. Alors, il y a du bon et du moins bon. Je vais prendre un exemple. Hier soir, par exemple, le penalty accordé aux Stéphanois. Même si on veut être puriste, il ne pouvait pas intervenir à la vidéo là-dessus sur leur jeu. Parce que vous avez cité les 4 cas à l'instant. Là, l'arbitre siffle penalty. Et au moment où il siffle penalty, l'assistant lève son drapeau, estimant que Casri était hors jeu. Et l'arbitre interpelle son collègue, et en fin de compte, il ne demande pas s'il y a faute, mais il demande si Casri est hors-jeu ou pas. Et la vidéo montre qu'il n'est pas hors-jeu, donc il valide le pénalty. Mais l'année dernière, sans la vidéo, il n'y aurait pas eu pénalty, il y aurait eu coup franc indirect pour hors-jeu. Donc ça, il arrive des cas où la vidéo rectifie les erreurs des arbitres. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que ça manque par moments d'uniformité, notamment avec les arbitres VO. Je vais citer des exemples concrets, ce week-end par exemple. Amiens-PSG. La main de Laminois est sanctionnée d'un pénalty. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il est à terre, il détourne le ballon du bras, il détourne la trajectoire du ballon. Pénalty. La même main est commise le lendemain sur Nantes-Rennes par le Rennais Johansson. Elle n'est pas sifflée. On ne comprend pas. C'est deux poids, deux mesures. Alors que nous, à notre époque, on n'avait ni la vidéo, ni les arbitres de surface, ni la gunline. Donc, on devait prendre notre décision dans l'instantané. Là, aujourd'hui, ils ont une bouée de sauvetage, les arbitres. Je pense que c'est même beaucoup plus facile pour eux aujourd'hui. Il y a des actions litigieuses. On prend le temps de la réflexion. Et on devrait donner une grille de lecture aux arbitres vidéo, notamment sur les mains, pour qu'il y ait une plus grande harmonisation des décisions des arbitres. Et comme ça, elles seraient mieux acceptées. Donc là-dessus, je pense qu'il y a un manque d'uniformité. Il y a eu aussi un autre exemple ce week-end, à Lyon-Reims, où Traoré se fait marcher sur le pied par un Rémois. L'arbitre se déplace, il va voir à l'écran. Et pourtant, on le voit clairement qu'il lui marche dessus. Il ne sanctionne pas pénalty. Et en même temps, dimanche soir, Ocampos se voit refuser son but pour avoir marché sur le tibia du gardien Monégas. Là aussi, on ne comprend pas. Donc je pense qu'il y a un problème, non pas avec les arbitres, mais peut-être avec les arbitres vidéo. Il faudrait peut-être mieux les former et qu'il y ait une grille de lecture et qu'il y ait comme ça des sanctions similaires qui soient prises sur tous les terrains. Alors c'est difficile, bien sûr, d'harmoniser parce qu'on est tous différents. Quand tu vas voir une image, Dominique, on peut ne pas avoir la même perception d'une image. Mais pour que les décisions des arbitres soient acceptées, il faut essayer de tendre vers une certaine forme d'uniformité.
Dominique.
Pour moi, il y a trois problèmes. Moi, j'étais à fond pour... je suis déçu, même si c'est globalement positif, comme on dit.
Oui, on a l'impression d'ailleurs qu'un championnat...
C'est Georges Marchais qui disait
ça. Un match ne peut plus se disputer sans vidéo maintenant. Quand c'est en panne, tout d'un coup, tout le monde panique pratiquement. Voilà.
Mais pour moi, il y a trois problèmes. Christophe a dit, il y a deux recours possibles. Soit l'arbitre qui officie dit, je vais regarder, je demande la vidéo. Soit les gens dans le car disent, attends, Clément, tu n'as pas vu telle chose, on va t'alerter, il y a penalty là. Ce qui me dérange, c'est que des joueurs, les Français en l'occurrence, réclament un penalty en finale de la Coupe du Monde. Ce n'est pas à eux. L'arbitre ne l'a pas vu, la vidéo ne s'est pas encore prononcée, que Matuidi et Griezmann mettent la pression sur l'arbitre pour lui demander de le regarder.
Qu'ils auraient fait en temps où la vidéo n'existait pas.
Oui, ils l'auraient quand même fait, tu sais.
Et ils l'auraient fait, mais ce n'est pas à eux à de la demander. Si l'arbitre ne la demande pas, si le CAR ne juge qu'il n'y a pas main, on passe, c'est pas aux joueurs à demander. Parce que sinon, si c'est les joueurs qui demandent, ils vont demander toutes les 20 secondes. Ensuite, je pensais qu'il y aurait moins de contestations. Parce que comme les joueurs savent qu'il y a la vidéo, une fois qu'une décision est prise, déjà que l'arbitre, quand il n'y avait pas la vidéo, il revenait rarement sur sa décision. Là, maintenant, il est appuyé par l'image, il est appuyé par des aides humaines et par des aides technologiques. Donc, je me suis dit, ils vont finir par se taire et accepter l'édition de l'arbitre. Or, ça continue autant à palabrer, on perd autant de temps. Et puis, la troisième problème, c'est le temps que ça prend. Le foot est un sport de rythme, contrairement au rugby. Au rugby, c'est pas grave si le match est haché. C'est pour ça que la vidéo va très bien au rugby. Le foot, il y avait un doute, parce que c'est un sport de rythme. Il faut que ça aille vite. Il faut que quand le ballon s'en touche, il y a des ramasseurs de balles qui la rendent vite. Il faut que ça aille vite. Si ça joue à deux à l'heure, c'est pénible. Un match qui est vivant, un match qui est rythmé, un match où il y a une intensité, c'est un match que tout le monde aime. Là, ça prend beaucoup trop de temps. Parfois, pour des cas très simples, il faut 4 à 5 minutes qu'on rajoute au temps additionnel. Parfois, on a des matchs hier qui ont fini à 97 minutes. Alors, c'est sympa, hein, parce que le temps additionnel, c'est passionnant, tout ça. Mais franchement, ça pourrait, si on pouvait raccourcir la prise de décision, ce serait plus sympa.
David ?
Moi, je suis très à l'aise avec ça, parce qu'à partir du moment, enfin, avec la vidéo en général, parce qu'à partir du moment où on accepte que dans le sport de haut niveau, il faille, où on immisce une assistance scientifique, l'idée même de la vidéo, on doit l'accepter et on doit la travailler. Et on a un an d'avance avec la Bundesliga parce que les arbitres se sont confrontés à cela toute la saison dernière en Bundesliga. Au départ, c'était très positif parce que on avait vu, la vidéo avait repéré des choses que les arbitres ne voyaient pas. Et puis, très vite, il y a eu un vent presque de scandale parce que des décisions très discutables ont été prises. Toute la saison a servi à cela, et cette année en Bundesliga, on est dans la saison 2, et les choses sont beaucoup plus apaisées. Je pense, moi, que aujourd'hui, on est encore dans le prototype, et que l'interprétation dont on parlait tout à l'heure est un mot-clé. À partir du moment où on va limiter les problèmes d'interprétation, beaucoup de problèmes seront résolus.
En fait, il y a un problème. Nine. Dominique dit il y a trois problèmes. En réalité, moi, j'en vois qu'un, c'est l'humain. Parce qu'en fait, on reproche beaucoup à l'assistance vidéo, les défaillances de l'humain, c'est-à-dire les défaillances de l'arbitre ou du comportement des joueurs ou des gens qui ont mis en place le protocole d'utilisation.
On croyait que ce serait un système infaillible, c'est ça ?
Vous avez cru que ce serait un système infaillible. Moi, quand j'en ai parlé, je n'ai jamais dit que ça résoudrait 100% des cas. Ce que Dominique reproche,
c'est ce qu'on espérait.
Bien sûr, c'est une assistance. C'était une aide.
Mais on est bien d'accord. Mais quand par exemple Dominique vous dites, les joueurs la demandent et puis il y a des contestations, ça c'est de l'humain, c'est pas la vidéo. En fait, le problème, c'est le problème de la vidéo. Si les joueurs contestent et si les joueurs réclament et obtiennent, ça veut dire qu'il y a un problème d'éducation par rapport au règlement et qu'il y a aussi un problème de fébrilité de l'arbitre. Ça, dans d'autres sports où on utilise la vidéo, et les réclamations et les contestations n'existent pas. Donc ça, c'est une première chose. Après, le temps que ça prend, je suis tout à fait d'accord, et sur le manque de communication à l'intérieur du stade pour le public. Mais ça, après, c'est les gens qui ont mis en place le protocole, qui se sont soit mal débrouillés, soit qui n'ont pas encore tiré les premières conclusions. Quand tout à l'heure, Bruno parlait de grille de lecture, on est en plein dedans. Qu'on réadapte le protocole pour que ça gagne peu plus de temps. La première fois qu'on a créé le réacteur, l'avion l'a pris feu. Aujourd'hui, on fait Paris-New York en 2 heures.
La dernière fois qu'on a, il y a un autre problème, c'est que j'ai l'impression que les arbitres ne veulent pas se déjuger. C'est-à-dire qu'hier à Monaco-Nice, il y a manifestement une simulation d'Atal qui obtient un penalty. Monsieur, je sais plus qui est l'arbitre.
Monsieur Bastien
va voir les images. Donc on se dit bon bah il va reconnaître son erreur, une erreur manifeste. Si on l'appelle, c'est que les gens dans le car disent c'est qui déjà Monsieur Bastien, Bruno Bastien, c'est ça son prénom?
Benoît Bastien,
viens voir les images. Peut-être que t'as fait une erreur. Donc on se dit il va se déjuger. Eh bien non, malgré le fait qu'il voit les images. Donc là c'est les images que tout le monde voit. Hein.
Oui.
Tout le monde voit qu'il n'y a pas penalty. Oui. Lui. Autant à vitesse réelle, moi je suis comme lui, je siffle penalty. Oui. Mais cette aide-là doit lui permettre de dire, bon bah écoutez les gars, j'ai vu les images, excusez-moi, je me suis trompé, monsieur Attal, vous avez essayé de me berner, vous allez prendre un petit jaune éventuellement, on met ou on met pas l'avertissement, mais surtout on arrête le penalty. Il le donne, il le maintient, bon, Massa Maxima le rate. Mais c'est quand même incroyable. Que c'était, pour moi, c'est de l'ego très mal placé.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est un problème humain.
Moi, j'aurais une dernière question sur ce sujet, Bruno.
Puisque de toute façon, les gens qui regardent les images, ce sont des arbitres, ce sont des gens
de c'est bien pour ça que l'assistance vidéo a besoin d'une grille de lecture et de gens absolument compétents et performants pour être utile. Je te le dis pas à toi particulièrement, mais quand on dit la vidéo ne sert à rien, c'est un truc qui m'énerve. Parce que la vidéo en elle-même donne une image. Après, c'est comment on interprète l'image. Mais ce sont les gens qui interprètent l'image qui servent à rien.
Il y a qu'un truc qui est binaire, c'est il y a but ou pas but. Est-ce que le ballon a franchi la ligne, oui ou non? Ça, c'est sûr.
Oui, c'est sûr.
La vidéo, ça sera toujours une image qu'on interprète.
Bruno, est-ce que vous avez dans le corps arbitral, je dirais d'une façon générale, mais la sensation que finalement, quand on disait l'erreur est humaine, quand il y avait des erreurs, même si le lendemain, quand on revoyait le match, on se disait vraiment là, il y avait pénalty ou il n'y avait pas. Est-ce qu'il y aurait finalement moins de tolérance maintenant parce que les arbitres ont l'assistance vidéo? Est-ce qu'on tolère moins d'erreurs?
Ah, je pense, oui. Parce que maintenant, on estime qu'ils sont aidés pour prendre les bonnes décisions. Ils ont l'arbitre vidéo, ils ont la guideline technologie. Encore une fois, moi, je répète, j'avais passé à mon époque, c'était bien plus compliqué pour nous. On arbitrait en direct, en live, avec notre perdu. Et d'ailleurs, moi, j'aurais bien voulu avoir ces outils. Ça m'aurait évité d'abord d'être suspendu et de me mettre au repos pendant quelques matchs, après 2 ou 3 matchs que j'avais arbitrés ou pris des mauvaises décisions. Donc, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on leur pardonne plus rien parce qu'on estime qu'on leur a donné tous les outils pour être performants. Et force est de constater qu'ils ne le sont pas tous. Pour revenir aussi à ce que disait tout à l'heure Dominique, je crois aussi qu'il faut prendre le temps aussi quand on analyse l'image, ne pas prendre ici dans la porte-pièce. Parce qu'il faut bien voir tous les angles des images avant de prendre une décision. Il ne faut pas précipiter aussi la décision. Je pense que c'est pour ça que Bastien, hier, a pris du temps. Il est resté au moins plus de 2 minutes devant l'écran pour voir tous les exemples.
Bon. Je parle entre la régie et l'arbitre. Parce que parfois, la régie, elle demande, elle regarde, et puis au bout d'une minute, l'arbitre va voir un écran de contrôle où il se fait son propre avis, et donc en fait on repère du temps.
Oui.
C'est-à-dire que
mais
là,
au final,
donné,
on perd du temps et prendre la bonne décision rallonger les matchs.
J'ai l'impression qu'on se défausse dans le car, dans le bus, on se défausse sur.
Mais bien sûr.
Nous on l'a vu 5 fois, on n'est peut-être pas d'accord entre nous. Viens voir. Donc lui, celui qui vient de siffler il y a 3 minutes, il vient voir finalement l'image. Donc soit il maintient sa décision.
Et un autre sentiment que j'ai, je partage pas ce que tu disais tout à l'heure, Dominique, non plus. Moi, j'ai le sentiment que la vidéo, quand elle est prise, la décision par la vidéo, elle est mieux acceptée par tout le monde. Parce que l'arbitre dit, c'est pas moi, c'est l'image.
Et j'ai le sentiment que ça soit comme ça.
Mais j'ai le sentiment que le défenseur, quand l'arbitre siffle un penalty, ben, à partir du moment où il a fait appel à la vidéo, que la vidéo est venue confirmer sa décision, elle est acceptée de tous. Enfin, en tout cas, elle est mieux
sur
acceptée que dans le passé. Moi, j'ai le sentiment. Et par contre, le fait que les joueurs viennent réclamer la vidéo, et ça, c'est vrai que tu as raison, c'est inacceptable, et c'est passible d'un avertissement.
Eh ben on y reviendra à la vidéo évidemment dans les prochains mois, j'imagine. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'était intéressant de voir si ça améliore ou pas. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a moins de contestations sur l'instant. On se souvient quand le but est annulé par Marseille dans le stade Vélodrome.
Nice prend un rouge qui est justifié. Ça palabre.
Sur la perte de temps.
Par contre, Juste pour finir, je pensais que quand les arbitres se déplacent pour aller voir l'écran, qu'ils seraient entourés, que les entraîneurs voudraient venir mettre de la pression. C'est pas le cas, tant mieux d'ailleurs.
Ah oui. En tout cas, système perfectible donc, et on y reviendra quand il y aura certainement quelques petits apports. On prend la direction de l'Allemagne.
Là, c'est du spiel! Ball est à la ligne! Aus que Lewandowski! Kein Abseits! Und das ist die Führung!
Les clubs allemands en piste pour la deuxième partie de saison, après leur trêve annuelle, donc ça dure un mois, hein, certaines mises au vert. Le Bayern est allé lui aussi du côté
au
du
soleil,
golf,
oui.
Soleil de Doha. Les équipes en tout cas reprennent les championnats. Demain soir, nous aurons un Bayern Munich qui ira sur le terrain d'Offenheim, le deuxième chez le septième, et une équipe bavaroise eh bien, qui revient prête à tout pour conserver eh bien, son bouclier, parce que 7 titres déjà consécutifs, on parlait hier de...
6.
6 consécutifs, six, ouais. Ça serait le 7e, pardon. Et c'était hier la Juventus qui en a déjà 7 et qui réverse son 8e. Le Bayern est à 6 points du leader, donc le Borussia Dortmund. La dynamique est plutôt bonne, 5 matchs, 5 derniers matchs, 5 victoires. Et d'ailleurs, l'entraîneur Niko Kovac, juste avant les vacances, eh bien au retour de vacances, avançait une explication, selon lui, pourquoi le Bayern a pris du retard au classement.
Je dois schon sagen, dass uns der Ausfall von King...
Je dois admettre que la blessure de Kingsley nous a fait mal, même si c'est impossible de le prouver. Je pense que si Coman ne nous avait pas manqué, nous n'aurions pas eu 6 points de retard après la première partie de saison, et peut-être même que nous serions en tête du classement. Je sais que ses qualités sont celles dont l'équipe a besoin. Il s'est rétabli, il ne ressent plus de douleur. C'est très important pour lui, car Arjen Robben et Franck Ribéry ne pourront pas encore jouer. J'attends que Kingsley prenne les choses en main en démontrant ses qualités et ses facultés sur le terrain. Il doit aider l'équipe avec sa vitesse et son style de jeu direct. Nous sommes tous conscients du fait que nous possédons une solide alternative de plus avec lui.
Kingsley Coman, l'ailier gauche du Bayern, qui s'est blessé 2 fois pratiquement au même endroit l'année dernière au mois de février et lors du premier match d'ailleurs contre Offenheim.
C'est un miroir de la première partie.
Exactement,
de saison.
Exactement. Est-ce que c'est pour vous l'une des vraies raisons du retard de 6 points et surtout du mauvais départ du Bayern en championnat?
C'est une raison, c'est pas l'essentiel à mon avis. C'est sûr que quand vous avez dans votre effectif des joueurs et un joueur en particulier, ce jeune français qui peut, comme on dit vulgairement, casser des reins, ça fait pas de mal. Surtout quand vous êtes une équipe comme le Bayern qui a tendance à avoir un jeu assez placé. Avec ses 35 ans de Robben, les 36 ans de Ribéry à venir, on peut pas attendre de ces deux piliers-là qu'ils soient des joueurs qui fassent la différence à chaque fois qu'ils prennent le ballon. Donc bien sûr que vous avez besoin de ce genre de joueurs, surtout quand vous êtes dans un besoin urgent aussi de renouveler l'effectif parce que celui-ci vieillit. Manuel Neuer 32 ans, Mats Hummels 30 ans, Boateng 30 ans et d'autres. Ravi Martinez aussi commence à avoir des jambes un peu usagées, si je puis dire, par exemple. Et du coup, vous avez toujours besoin. Mais il me semble que le problème principal du Bayern, c'était de s'adapter au nouvel entraîneur, c'était de changer un peu, de se remettre en question après une Coupe du Monde qui, pour certains, est encore très profondément ancrée dans les esprits, des joueurs
négativement,
essentiels.
Bien sûr.
Négativement, Coupe du Monde catastrophique, historiquement catastrophique. Et l'entraîneur, là, se réfugie un peu derrière des magiciens qui pourraient effectivement faire tourner des matchs ou des scénarios de matchs, mais fondamentalement, les problèmes étaient plus profonds que simplement l'absence d'un joueur.
Est-ce que les 6 points, c'est rattrapable pour un Bayern, ce Bayern-là ?
Alors, au Bayern, on est convaincu de cela pour une raison mathématique simple, c'est que on va recevoir Dortmund en deuxième partie de saison et on est persuadé qu'on va gagner contre le Borussia Dortmund à Munich. Donc, ça fait 6-3, 3 points de retard. Plus que 3 à rattraper. Et en plus, dès ce week-end, la chose peut être entendue parce que si ça tourne bien pour le Bayern qui gagnerait contre Offenheim, Dortmund va devoir se coltiner le RB Leipzig qui lui a aussi beaucoup d'arguments. Donc dès ce week-end, on pourrait se retrouver avec un Bayern à 3 points. Et là, évidemment, la pression serait à nouveau sur les joueurs, psychologiquement, sur les joueurs de Dortmund.
Naïm.
Le Bayern joue moins bien que Dortmund, c'est un fait.
Oui.
Dortmund est meilleur devant, meilleur derrière, meilleur dans le jeu, ça va plus vite, c'est plus emballant. Mais le Bayern a un avantage considérable sur Dortmund, c'est qu'il a à la fois un effectif plus large, quand les blessés seront revenus en tout cas, et puis l'expérience de ces deuxièmes parties de saison où on peut tout jouer. Dortmund est meilleur, je l'ai dit, mais Dortmund a un effectif très jeune, très inexpérimenté, qui va devoir à un moment donné jongler entre et la Ligue des Champions, et même peut-être très tard, parce que Dortmund a toutes les cartes en main pour éliminer Tottenham, et jouer le haut de tableau en championnat, ce qui est toujours très compliqué, avec un effectif pas très extensible, et un entraîneur qui finalement n'a pas l'habitude de ces saisons-là. C'est un super technicien, Lucien Favre, mais il n'a jamais joué les derniers matchs de Ligue des Champions et le haut de tableau dans un championnat majeur, en tout cas avec une équipe comme ça. C'est là l'avantage du Bayern. Moi, je suis pas sûr que le jeu de Kovac corresponde vraiment au style de l'équipe, même quand il aura récupéré ses joueurs, même avec des individualités et tout ça. Je pense que c'est une erreur de casting, en tout cas, c'est mon avis. Mais le Bayern garde pour moi cet avantage de pouvoir, en deuxième partie de saison, retourner la situation grâce à ça.
Dominique, pour vous, il y a encore du suspense dans ce championnat ?
Oui, parce que l'avantage du Bayern, c'est qu'il va se faire éliminer par Liverpool très bientôt.
C'était le pire tirage possible et on l'a admis en Bavière.
En Ligue des Champions, il est tombé sur la meilleure équipe d'Europe, sans doute. En tout cas, c'est ce que je pense. En revanche, le problème depuis le début de saison, c'est la blessure d'un Français, effectivement, mais c'était Tolisso, pas Coman. Parce que lui, il est champion du monde et sur sa lancée, il aurait pu réaliser une très très belle saison.
Et l'autre Coman n'a pas pu être champion du monde, peut-être, mais parce qu'il a été blessé très tôt.
Et l'autre problème du Bayern, c'est Thomas Tuchel, c'est le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que il voulait un entraîneur, le choix numéro un, c'était Thomas Tuchel, c'était pas Kovacs. Et Thomas Tuchel est fait pour les grands clubs, on est en train de le découvrir, les très grands clubs. Il a entraîné le Dortmund, il entraîne bien le Paris Saint-Germain. Nico Kovacs, je pense qu'il a des limites. Et il est aussi victime, et ça c'est pas de sa faute, de ce qu'a aussi tué Ancelotti, c'est-à-dire que Robben et Ribéry sont les véritables patrons de ce club, et que tant qu'ils seront là, on peut pas faire ce qu'on veut, et que leur renouvellement est compliqué. Alors, je pense qu'il dit que la blessure de Coman est un problème parce que il aimerait bien parfois faire tourner ces postes-là et qu'il pouvait pas faire tourner. Mais c'est pas Coman lui-même, c'est le fait que qu'il n'y a pas de solution pour remplacer ces deux joueurs-là. Alors, heureusement, Robben a annoncé qu'il s'en allait.
Ribéry pas encore,
mais après il fait des plutôt bons matchs. Hein. Il joue pas tout le temps.
Oui,
mais
il a marqué justement hein, dans la dernière victoire.
Donc voilà, il y a des choses positives comme l'élimination prochaine est probable en Ligue des Champions. Il y a des éléments objectifs. Lucien Favre, c'est quand même extraordinaire ce qu'il fait partout où il passe. C'est quand même un technicien fantastique qui est très ami avec Karim Rummenigge. Ils étaient ensemble au Servette. Il est lui aussi, Rummenigge rêve de l'avoir un jour au Bayern. Donc voilà, je pense que c'est le choix d'entraîneur qui est compliqué.
David, juste pour terminer, vous imaginiez plutôt que Mönchengladbach pourrait jouer le trouble fait dans ce championnat. Ils peuvent encore ?
Oui, ils peuvent encore parce que c'est une équipe qui a de sacrés atouts et notamment, suivez-le tous dans les prochains mois, le petit frère Hazard. Thorgan Hazard. Qui est vraiment
ça fait 2-3 ans
on l'a connu.
Oui, mais je veux dire là il prend une vraie dimension et il est encore sous-coté à ce niveau-là. Il peut apporter beaucoup dans cette équipe qui est forte offensivement. Oui, moi j'en faisais presque mon favori. Alors ils ont un peu de retard quand même.
Vous aviez fait votre favori, oui. Sinon Radio Foot.
Oui, parce que
Laurent Salerno s'en souvient.
ils n'ont pas le problème de jouer ces coupes d'Europe qui sont si voraces en énergie mentale et physique.
Eh bien, on suivra cette journée de Bundesliga et nous y reviendrons évidemment la semaine prochaine. Pour terminer Radio Foot, Christophe Jousset, vous auriez voulu nous raconter une histoire, une triste histoire, celle qui s'est déroulée au Ghana ces dernières heures et qui a coûté la vie à un de nos confrères.
Oui, c'est vraiment un crime contre la liberté de la presse qui a été commis, manifestement, hier à Accra, et qui a touché Ahmed Hussein Divella. Il avait 34 ans et ce journaliste faisait partie de l'équipe d'enquêteurs qui avait fait éclater un scandale de corruption dans le foot ghanéen l'année dernière. Vous vous souvenez de cette affaire. Hier à Madina, en tout cas, juste au-dessus d'Accra, il y a deux hommes à moto qui se sont portés à hauteur de sa voiture. Il était au volant, ils ont ouvert le feu, ils ont abattu leur cible. On peut difficilement ne pas faire le rapprochement avec entre cet assassinat et les menaces qui ont été proférées publiquement récemment contre Ahmed Hussein. C'est un député du parti au pouvoir au Ghana qui était apparu sur le plateau d'une chaîne télé diffusée par Internet et il avait appelé à frapper le journaliste pendant qu'apparaissaient à l'écran les photos de la future victime. Il promettait une récompense même à qui tabasserait le journaliste. Alors pour mémoire, le travail de cette équipe d'enquêteurs de journalistes d'investigation était dirigé par Anas Aramayao Anas, qui apparaît parfois en public, mais avec le visage masqué. Et ça avait débouché sur un grand scandale. Reporter infiltré, caméra cachée. L'enquête avait débouché sur la suspension par la CAF d'une cinquantaine d'arbitres africains et par la chute du président de la fédération ghanéenne, Kwesi Nyantakyi.
On y reviendra demain dans Radio Foot International et vous pouvez le suivre avec le service des sports sur l'antenne de RFI. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé à ce Radio Foot aujourd'hui. Merci à Laurent Salerno et Pierre Guérin. Et à demain.